آله وصحبه أجمعين. وفينير لو شابيتر إن شاء الله. لو كي دي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمد حتى يعمله أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui reproche à son frère un péché ne mourra pas sans l'avoir commis lui-même. » Ça, c'est dans les sunnans de Tirmidhi. Et il dit « Sanaduhu munqati'a » c'est-à-dire sa chaîne de transmission, entre guillemets, est coupée, est interrompue. Et Cheikh Al-Albani a déclaré ce hadith comme étant « da'if », c'est-à-dire faible. Mais on va quand même lire l'explication pour le reste des textes qu'il va ramener dans l'explication. Donc il dit « الحديث فيه التحذير من عيب الإنسان أخاه المبتلى بذنب من الذنوب أو عيب من العيوب فإنه لم يعب أحدا بعينه إلا لما يجد في نفسه من العجب بسلامته من ذلك العيب والعجب ناشئ من نفسه لأنه يرى أن عصمته من العيب جاءت من قوته وإرادته لا من الله تعالى الذي صرف عنه السوء. هذا الحديث nous met en garde contre le fait de critiquer une personne et un frère qui a été éprouvé par un péché, ou alors qui est éprouvé par un défaut. Car quand une personne, elle critique quelqu'un pour son défaut, ou pour son péché, ça vient de l'ujb, c'est-à-dire qu'il voit que lui, il est imbu de lui-même, et il voit que lui, il est saint de ce défaut. Mais il ne voit pas qu'il a été protégé de ses défauts par la volonté d'Allah Azzawajal, et par le bienfait d'Allah, mais simplement il voit que ça vient de sa propre force et de sa propre volonté. Et donc il devient imbu de lui-même. من عاب أخاه بعيب مثاره الإعجاب بنفسه والشماتة بأخيه لن يموت حتى يصاب به ويعمله ذلك أنه لم يتكل على الله تعالى بالتوقي من الشر وإنما اعتمد على نفسه فخذله الله تعالى وخانته نفسه فعمل ما عير به أخاه. Il dit celui qui critique son frère parce qu'il est imbu de lui-même, parce qu'il est orgueilleux, et il ressent du plaisir dans le malheur de son frère. Celui-là, il ne mourra pas sans être éprouvé par la chose et par l'action qu'il reprochait à son frère. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas reposé sur Allah Azzawajal pour être protégé du mal, mais il s'est reposé sur lui-même. Donc Allah va le laisser sans le secourir et il sera délaissé aussi par sa propre âme et il fera ce péché qu'il a reproché à l'autre. فهذا دليل على تحريم الشماتة بالناس ووجوب الغفلة عن عيوبهم اشتغالا بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. Il dit donc ce hadith montre l'interdiction de الشماتة, c'est-à-dire se réjouir du malheur des autres ou du défaut des autres ou des péchés des autres, et nous montre l'obligation de ne pas faire attention aux défauts des autres pour s'occuper de ses propres défauts. Et bonheur ou Touba, on a expliqué ce que c'est. Touba est promis à celui qui s'occupe de ses défauts et qui ne s'occupe pas du défaut des autres. Et Touba, donc, c'est un arbre au paradis ou un degré au paradis. وقد جاءت النصوص التي تنهى عن هذا الخلق الرذيل قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Il y a des textes qui interdisent ce comportement, comme le verset qui dit ceux qui aiment que al-fahisha, c'est-à-dire que la turpitude se propage entre les croyants, ceux-là auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ. Et dans le Sunan al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne montre pas que tu es content du malheur de ton frère, car peut-être qu'Allah lui fera miséricorde et t'éprouvera toi. فَإِنَّ إِذْهَارَ الشَّمَاتَةِ لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. » Et donc ça ne fait pas partie, ce genre de choses, du comportement du musulman. C'est-à-dire de montrer que tu te réjouis du malheur de quelqu'un, car le musulman, lui, il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. فَإِنَّ خُلُقَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَأَلَّمَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَيَفْرَحَ بَعْضُهُمْ لِفَرَحِ بَعْضِهِمْ الْآخَرِ. Et le comportement du musulman, c'est que les uns souffrent du malheur des autres, et les uns sont heureux du bonheur des autres. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. Ici dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: malheur à celui qui parle et qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui et malheur à lui. Ça donc c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i, et Cheikh Al-Albani l'a déclaré sahih. الحديث فيه الوعيد بالهلاك لمن يحدث الناس فيكذب عليهم وذلك ليضحكهم ويفكههم بأكاذيبه وأقواله الباطلة. Donc ce hadith est une menace contre la personne qui parle et qui dit des mensonges pour faire rire ou faire des blagues aux gens. جاء تحريم الكذب في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. من الكتاب قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Donc il y a beaucoup de textes religieux qui parlent de l'interdiction du mensonge. Comme dans le Coran, ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science. Et le verset qui dit, il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait auprès de lui un surveillant attentif. Donc c'est-à-dire les anges qui inscrivent les paroles de la personne.
ومن السنة جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وذكر منها وإذا حدث كذب.
Et dans les deux sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les quatre caractères qui, si elles se trouvent chez une personne, elle sera une pure, cette personne est un pur hypocrite, et parmi ces caractéristiques, il a dit, quand il parle, il ment.
وجاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
Et dans les deux sahih, toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le mensonge amène à la turpitude et à la désobéissance, et la désobéissance mène en enfer, et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah كذاب, il soit enregistré auprès d'Allah comme un menteur.
وقال النووي رحمه الله اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال.
النووي dit, sache que si à la base le mensonge est interdit, il est permis dans certaines situations.
كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه.
Tout but noble que tu peux acquérir, auquel tu peux arriver sans mentir, le mensonge est interdit dedans, même si c'est un but noble. Pourquoi? Parce que tu peux y arriver sans mentir.
وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب.
Mais si par contre tu ne peux y arriver qu'en mentant, il t'est permis de mentir.
ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وإن كان واجبا كان الكذب واجبا.
Et si l'acquisition de ce but est simplement licite et que tu ne peux y arriver que par le mensonge devient licite. Si ce but est obligatoire, le mensonge sera obligatoire, si c'est le seul moyen d'y arriver.
فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه ومثله الوديعة المخفاة عن ظالم والأحوة التورية ومعناها أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب.
Il dit par exemple, si un musulman il est touché par un injuste qui veut transgresser contre lui, qui veut le tuer ou qui veut prendre ses biens, et une personne elle peut le cacher en mentant, c'est-à-dire cette personne elle cherche l'autre, un musulman il peut mentir pour cacher ce musulman, pour pas que l'autre il arrive à ses fins contre lui. Donc c'est-à-dire pour se dégager d'une injustice et de la transgression. Et il dit le mieux c'est de tawriya, c'est-à-dire de dire une parole qui en apparence est un mensonge, mais qui n'est pas un mensonge relativement à sa propre personne. C'est-à-dire, il dit une parole que l'autre va comprendre dans un sens, mais lui, il veut dire autre chose. Par exemple, ici, il n'a pas cité, mais l'histoire où Ibrahim, il a voulu protéger sa femme Sarah, et il a dit, si le roi, quand un roi l'avait fait appeler, s'il te demande qui tu es ou qui je suis, tu dis c'est mon frère, tu dis pas c'est mon mari. Alors qu'il n'est pas son frère, mais quelque part, il est son frère en islam. Donc, c'est-à-dire, c'est un mensonge sans être un mensonge. C'est-à-dire c'est le mieux pour échapper à des situations. Plutôt que de mentir carrément, il faut encore mieux trouver ce genre de formule. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلمين عن أم كلثوم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ورواية مسلم عنها قالت لم أسمعه يرخص في الكذب إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Et dans les deux sahih, la fille du prophète, Umm Kalthoum, radiallahu anha, dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, non, je ne pense pas que ce soit la fille du prophète, en tout cas, c'est Umm Kalthoum, puisque la fille du prophète est morte avant que lui-même ne meure, donc je ne pense pas qu'elle ait pu rapporter un hadith. En tout cas, Umm Kalthoum, une sahabia, dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, le menteur n'est pas celui qui réconcilie entre les gens, et qui en découle un bien ou qui dit du bien. C'est-à-dire celui-là, c'est pas considéré comme un menteur. Et dans la version de Muslim, elle a dit, je n'ai pas entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, permettre de mentir si ce n'est dans trois choses. Dans la guerre, dans le fait de réconcilier les gens, et la parole que l'homme dit à sa femme ou que la femme dit à l'homme. C'est-à-dire le mari, il peut mentir à sa femme et la femme, elle peut mentir à son homme, si c'est pour le bien du couple, et si c'est pour faire plaisir à l'autre. قال عياض لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة. القاضي عياض رحمه الله dit qu'il n'y a pas de divergence sur la permission du mensonge dans ces trois situations. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. Donc là, il ramène un hadith dont lui-même, Ibn Hajar, dit qu'il est faible et qui dit « Pour expier la médisance que tu as fait contre ton frère, il faut demander pardon pour lui. » C'est-à-dire que tu demandes à Allah de le pardonner. Donc là, il a cité toutes les explications, si ce n'est qu'à la fin. Donc je passe directement à ces deux citations, comme le hadith, il n'est pas authentique. Il a dit « قال الحسن البصري » C'est-à-dire, je vous cite ces deux citations qui renforcent quelque part le sens du hadith. Il a dit, يَكْفِهِ الْإِسْتِغْفَارُ دُونَ الْإِسْتِحْلَالِ Al-Hassan al-Basri dit, il suffit qu'il fasse l'istighfar, c'est-à-dire qu'il demande à Allah de pardonner à la personne dont il a dit du mal, plutôt que d'aller lui demander pardon. Pourquoi ? Parce que l'istihlal, c'est-à-dire aller demander à la personne de t'excuser, souvent ça va causer un malheur plus grand qu'autre chose. Parce qu'il va, être déçu de savoir que tu as parlé sur lui. وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. Et مجاهد, donc l'élève d'Ibn Abbas, dit l'expiation quand tu manges la chair de ton frère, c'est que tu le loues, c'est-à-dire que tu parles en bien de lui et que tu invoques Allah pour lui. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. Akhrajahu Muslim. Ce hadith dit, la personne la plus détestée auprès d'Allah, al-aladul khasim, c'est-à-dire la personne qui se dispute et qui est mauvaise dans la dispute ou dans la discussion. Donc il dit dans l'explication, al-aladu huwa al-khasim ash-shadid al-khusuma. Donc al-alad, c'est celui qui est dur dans la dispute et qui a des discussions âpres, c'est-à-dire c'est dur de discuter avec lui, de débattre avec lui. Wa shadid al-ta'abbi. قال تعالى وهو ألد الخصام وقال وتنذر به قوما لدا. Et Allah dit dans le Coran وهو ألد الخصام, c'est-à-dire et il est, en parlant d'une certaine catégorie de personnes, et il est la personne la plus mauvaise dans la dispute ou dans la discussion. Et dans un autre verset il dit pour que tu avertisses un peuple لدا, donc ça vient de اللدود, c'est-à-dire الألد, et là c'est لدا, c'est-à-dire un peuple qui dispute et qui refuse la vérité. C'est ça qui est voulu ici. C'est-à-dire qui argumente dans le faux pour refuser la vérité. فَالْلُدُودْ شَدِيدُ الْخُصُومَةِ يُبْغِدُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُرِيدُ بِلِجَاجِهِ طَلَبَ الْحَقِّ وَالْوُصُولَ إِلَى الصَّوَابِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ عَلَى مُجَادِلِهِ وَمُخَاصِمِهِ وَلَوْ بِالْبَاطِلِ. Donc, al-ludud, c'est celui qui se dispute durement. Donc, Allah le déteste parce que ce genre de personne, par son parler, il ne veut pas la vérité et arriver à la vérité. Mais il veut simplement montrer et vaincre la personne avec qui il discute et la personne avec qui il débat. Même si c'est pour défendre le faux Et comme ça, ça nous fait penser aux charlatans d'internet qui disent et qui prétendent être Ahl Sunnah wal Jama'a et qui disent oui, ceux qui s'appellent Salafi, ils sont loin des Salafs. Et en vérité, nous, on représente la majorité des musulmans et on est Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors qu'en vérité, ils sont les héritiers de Jahm ibn Safwan et Bishr al-Mirrisi qui renient les attributs d'Allah. Et ils disent, celui qui veut qu'il vienne débattre avec nous, masha'Allah. Tawadu'a, masha'Allah, la modestie. Et après, si tu débats avec eux, ils sortent des arguments complètement du talbis, c'est-à-dire du mensonge, du déguisement dans les paroles, et que de la parole. Tu lui dis, Allah il a deux mains, il te dit, tu attestes à Allah un corps, masha'Allah. Tu dis ce que j'ai pas dit. Donc, Mohim, ça fait penser à ce genre de personnes. Il dit وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. Et dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il suffit pour toi comme péché que tu ne cesses de te disputer, c'est-à-dire que tu ne cesses de débattre. قال الغزالي رحمه الله إن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم. Là, il cite une parole qu'il a tirée du livre d'Al-Ghazali. Il dit donc, le blâme, c'est pour une personne qui se dispute pour le faux et sans science. Donc là, Al-Ghazali, bien sûr, c'est Abu Hamid. On ne va pas citer, nous, Mohamed Al-Ghazali. On cite l'ancien Abu Hamid. Donc, Cheikh, il estime que ça, on peut le tirer de son livre, que c'est un bénéfice qu'on peut tirer de son livre. Et c'est ni toi ni moi qui allons tirer des bénéfices des livres d'Abu Hamid Al-Ghazali, à cause de tout ce qu'il y a dedans. Donc il dit le blâme, c'est pour celui qui se dispute et qui débat par le faux et sans science. كالذي يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب وكالذي لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر الكذب لإيذاء خصمه. Il dit comme une personne qui choisit déjà une opinion avant même de connaître la vérité et il tranche déjà avant de se lancer dans la discussion. Ou alors celui qui ne se suffit pas de ce dont il a besoin dans la discussion mais il rajoute. Et il va jusqu'à mentir pour nuire à la personne avec qui il débat et il discute. Comme là, j'attire l'attention sur notamment ces gens dont je viens de parler, au cas où quelqu'un il aurait lu l'article, ou parmi les auditeurs de Paltok, ils ont écrit une parole sur Mohamed Khalil Harras, qui était un savant d'Al-Azhar, et qui a changé, et qui était à la base parmi Ahlul Kalam, et qui est devenu après Salafi, c'est-à-dire il a choisi l'Aqida Ahl Sunnah wa Jama'a. Et il a écrit un char de l'Aqida al-Wasitriya. Et donc ils ont cité des passages de ce livre, et donc comme ils jouent avec les gens, parce qu'ils savent que les gens ils n'ont pas de bagages, et que c'est facile de leur tourner la tête, ils disent, parce qu'à un moment où Cheikh Mohamed Khalil Harras dit, c'est-à-dire je ne vais pas vous dire texto ce qu'il dit, mais la signification de ce qu'il dit, c'est que Allah parle, et Allah parle à des instants donnés, c'est-à-dire la parole d'Allah elle peut être hadith, elle peut être nouvelle, comme lorsqu'Allah a dit à Moussa Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayk, il l'a bien dit à un moment précis. Il lui a dit je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, Allah lui a dit à un moment précis. Donc cette parole elle est hadith. Avant qu'Allah la dise, il ne l'a pas dit. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Or Al-Asha'ira il refuse d'attester ça. Ils disent non, la parole d'Allah c'est en fait hadithun nafs, c'est-à-dire c'est ma'nan qa'imun bi dhatillahi azza wa jal. C'est une signification en Allah. Et en arabe ça s'appelle pas le kalam, ça s'appelle hadithun nafs, la pensée. C'est comme ça qu'ils ont interprété la parole d'Allah. Donc ils disent que ces différentes paroles c'était des expressions ou des voix qu'Allah a créées ou autre pour exprimer ce qu'il y avait comme signification en l'essence d'Allah. Et ces significations qui sont en Allah, elles ne sont pas hadith, elles n'ont pas un instant donné. Elles sont et elles ne bougent plus. Bon. Déjà rien que de raconter, on n'a même pas besoin de dire la réponse pour comprendre que c'est n'importe quoi, mais bon. Et eux ils disent, oui c'est quoi ces salafis, ils viennent avec des croyances bizarres que les musulmans ils n'ont jamais connues. Mashallah. Ala kulli hal. Et donc Cheikh il dit dedans, que la parole d'Allah est qadimun naw' hadithul ahad, c'est-à-dire la parole d'Allah est éternelle, c'est-à-dire il n'y a pas eu un moment où Allah ne pouvait pas parler. Allah c'est une qualité qui est éternelle. Allah parle et peut parler et a toujours pu parler. Mais les paroles d'Allah sont chacune des paroles d'Allah sont hadith, c'est-à-dire elles sont à des moments donnés. Quand Allah a dit à Moussa telle parole, il ne l'avait pas dit avant. Et regardez le telbis et la tromperie, ils disent regardez comme il rejoint les Mu'tazila en disant que la parole d'Allah est muhdatha et est donc est créée. Pourquoi ? Parce que chez eux, tout ce qui est hadith, il est forcément makhlouq. Tout ce qui est nouveau est forcément créé. Donc si tu dis à un instant T, Allah a dit telle chose qu'il n'a pas dit avant, eh ben forcément c'est que tu dis la parole d'Allah est créée. Oui mais espèce d'âne, il fallait que tu dises que chez Mohamed Khalil Harras c'est pas comme ça, et chez Ahl Sunna c'est pas comme ça. Donc il fallait pas accuser une personne d'une chose qu'elle n'a pas dit. Et tu dis oui, il dit que la parole d'Allah, c'est-à-dire Mohamed Khalil Harras dit que la parole d'Allah, les différentes paroles d'Allah sont hadith, c'est-à-dire elles arrivent à un moment précis. Et toi, tu interprètes hadith comme étant dans ta compréhension fausse à toi, comme étant créé. Et tu dis, Mohamed Khalil Harras dit que la parole d'Allah est créée comme les Mu'tazila. Et regardez le Talbis comme il va loin. C'est que c'est qui dit que la parole d'Allah est créée? Certes, les Mu'tazila, ils disent que la parole d'Allah est créée. C'est-à-dire ce Coran qu'on lit, c'est une parole créée, qu'Allah a créée. Et c'est tout. Pour eux, Allah n'a pas de parole du tout. Alors que pour eux, pour ces charlatans-là, de aslama.com, Al-Asha'ira, ils disent que la parole d'Allah, c'est des significations, donc qui sont en l'essence d'Allah. Et cette parole qu'on lit, le Coran, ce n'est qu'une parole qui exprime les significations qui sont en Allah. Donc, billah alaykoum, cette parole, elle est quoi pour eux? Elle est créée. Donc, regardez le telbis. Eux, ils disent oui, ils disent parce que eux, quand ils vous parlent de la parole d'Allah, ils parlent pas comme nous, on comprend ce qu'on lit dans le Coran. Eux, ils parlent de ce qui eux, les pensées d'Allah que eux ont imaginé qui n'existent pas. C'est-à-dire, Allah parle, c'est tout. Et eux, ils parlent des paroles, des pensées d'Allah. Et donc, et c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est comment ils jouent sur les mots pour arriver à des fausses conclusions et dire que Muhammad Khalil Harras, rahimahullah, dit que les paroles d'Allah sont créées. Alors que Mohamed Khalil Harras dit bien que les paroles d'Allah sont incréées, et elles sont les paroles d'Allah, il a juste dit qu'elles peuvent arriver à un instant T. Et pourquoi vous ne dites pas que ce qui est écrit entre les deux couvertures du mushaf c'est créé, puisque c'est ça votre madhab? Et qu'en fait vous dites que la parole, ce que vous dites parole d'Allah, c'est simplement les significations qui sont en l'essence d'Allah. Et ce qu'on lit dans le Coran, ce n'est qu'une expression de la parole d'Allah qui sont en fait, entre guillemets, ses pensées, si on peut traduire en français comme ça. Regardez le talbis. Et sachez que je n'étais sur leur site qu'une seule, une seule fois. La seule fois que je suis allé sur le site, j'ai vu ça. Alors j'ose pas imaginer ce qu'il y a dans le reste du site. Et après, t'attends, mashallah, Malik ibn Anas, mashallah, le pseudonyme, il montre le tawadu, un pseudonyme qui montre la modestie de la personne, Malik ibn Anas. T'as pas trouvé d'autre pseudonyme que le nom de Imam Dar al-Hijra, mashallah, tabarakallah. Et qui dit, ces salafis, ils ont une croyance bizarre, que les musulmans ils n'ont pas connu pendant 1200 ans et l'ont hérité de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Alors que, admettons, rentrons dans son jeu, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah n'a fait répéter que la aqida de qui? Ibn Taymiyyah. Donc déjà tu nous as enlevé des siècles déjà. Et admettons qu'Ibn Taymiyyah est inventé. D'accord, et bien enlevons tous les livres d'Ibn Taymiyyah. Prenons Ar-Rad ala Jahmiyyah de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, mashallah, c'est un wahhabi. Prenons Ar-Rad ala al-Bishr al-Mirrisi de Uthman ibn Sa'id al-Darimi. Uthman ibn Sa'id, c'est un wahhabi. Prenons les répliques de l'imam al-Bukhari. Est-ce que c'est un wahhabi? Prenons al-Lakai et son livre Shar Usul i'tiqad Ahl Sunnah wa Jama'a. Est-ce que al-Lakai, qui n'a rien à voir avec Ibn Taymiyyah, est-ce que c'est un wahhabi? Prenons, et d'autres encore, ulama, parce qu'ils disent, ces gens-là, et encore une fois, je les ai écoutés qu'une fois. Donc en une seule fois que j'ai écouté, j'ai entendu toutes ces catastrophes. Donc je ne sais pas si j'écoutais tous les jours, qu'est-ce que j'entendrais comme mensonge. Et si j'aimerais bien pas en parler, mais malheureusement on voit que ça touche les gens. Et quand Ahl Sunna ils sont accusés, il faut quand même défendre pour montrer la vérité aux gens. Parce qu'on voit que ça touche des gens, et ça touche des... Et c'est parce que c'est facile. La page elle est blanche, donc c'est facile de la remplir. Et d'attraper n'importe qui et de lui dire, etc., etc. Et ils disent oui, parce que ça, c'est des gens, ils n'ont que 3-4 personnes avec eux, c'est-à-dire parmi les ulama. Mashallah. et alors que nous, des noms, on peut en ramener des milliers. Ça, ça prouve ton minhaj. Ton minhaj, c'est juste de ramener des noms. An-Nawawi a dit, Ibn Hajar a dit, donc c'est la vérité. Mais si c'est ça le jeu, on peut ramener nous aussi des noms. Et Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, ils ne sont pas en dessous d'An-Nawawi, Ibn Hajar. Si c'est juste une question de noms, les noms, on va les ramener. Et on va ramener en premier Ibn Jarir et Tabari, le premier exégète du Coran, qui, si on lit bien son tafsir, on retrouve la même explication du Tawhid qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc il faut arrêter de jouer comme ça avec les gens. Et donc je mets en garde tous les auditeurs contre ces charlatans, parce que c'est vraiment des charlatans. Et là, ils vous parlent comme ça, des petites paroles, mais à la fin, à quoi ils veulent vous faire arriver, c'est que tu as le droit d'invoquer les morts, et tu as le droit de faire tabarruk auprès des tombes des morts, et tu dois emprunter une voix soufie, et le shir, tu dois être entre ses mains comme un mort quand on le lave, etc. etc. Ahl sunnah wa jama'a, mashallah. Ahl bid'a wa al-furqa, c'est ça la réalité. C'est les gens de l'innovation et de la division. Donc j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais là, on est obligé pour montrer. Parce que comme on a accusé, et ils ont cité le centre Furqan précisément, eh ben, il faut montrer ce que c'est que notre aqidah, et montrer qui est réellement affilié au salaf dans ce sujet. Ensuite il dit donc, « Amma alladhi yahajju an haqqin lahu wa huwa mazloumun fihi bituruq al-hijjaj shar'i » وأصول المرافعات المشروعة فلا بأس بها ولا تدخل في باب الخصومة المذمومة. Il dit quant à celui qui argumente et qui débat et il est opprimé dans ce débat et lui il va emprunter donc les voies religieuses pour débattre, ça il n'y a pas de mal et ça ne rentre pas dans la mauvaise discussion, la mauvaise dispute. ومثل ذلك الذي يجادل لإظهار دين الله تعالى وإعلاء كلمته. Et il en est de même pour celui qui débat pour faire secourir la religion d'Allah Azza wa Jal et mettre au plus haut la parole d'Allah. Donc la parole d'Allah, pas comme ils disent eux. Hein. Parce que la parole d'Allah, comme ils le disent eux, je vois pas comment on peut la mettre plus haut. Allah musta'an. Et d'ailleurs, plus haut chez eux, il faut voir ce que ça veut dire, puisque apparemment on n'est pas les mêmes êtres humains, quoi. Parce que pour eux, plus haut, ça a des sens assez bizarres. Qui ne sont pas les sens que comprend tout être humain. Quand tu dis en haut, pour eux, ça veut dire ni derrière, ni devant, ni à droite, ni à gauche, etc. Allah musta'an. Wa dhuhuru ala a'da'i l'islam bi dahdhi hujajihim wa raddi shubahihim wa ibtali dalalihim. Et aussi pour vaincre les gens, les ennemis de l'islam, en détruisant leurs preuves et en renvoyant leurs doutes et en annulant leur égarement. Fahadha mahmoudun musabun sahibuhu. Donc ça c'est louable et celui qui le fait il est récompensé. Et il fait partie de ceux qui ont combattu par la langue et qui ont repoussé l'ennemi par al-bayan, c'est-à-dire par l'explication. Et Allah dit, ils ne te viendront pas par un exemple sans qu'Allah ne te vienne par la vérité et par une meilleure explication. وقال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. Et Allah dit, et débat avec eux de la meilleure des façons. والآيات والأحاديث في الباب كثيرة والله الموفق. Et il y a beaucoup de versets et de hadiths à ce sujet. Et on a fini le chapitre sur les mauvais comportements. Donc samedi prochain, on commencera le hadith sur les bons comportements. Et tout ça, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on raconte, c'est fait pour être appliqué. C'est pas juste pour on l'écoute. Et mashallah, le dars il a fait bouger mon cœur. Et quand je rentre, je parle à ma femme comme je veux, à mon père comme je veux, aux gens dans la rue comme je veux, je fais ce que je veux. Si on a fait ces efforts, c'est pour profiter, prendre cette science, mais ensuite l'appliquer, et être empreint de cette science-là. Et on demande à Allah qu'il nous aide sur cette voie et qu'il nous renforce. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa